Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio,
187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Je vous rappelle qu'il y a eu cette conférence de presse à 13h aujourd'hui du ministre Roberge avec le plan pour la rentrée scolaire qui est dans 2 ou 3 semaines, tout dépendamment à quel âge a votre enfant. Grosso modo, le masque à partir de 5e année, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, mais le masque seulement dans les endroits là publics, là, dans les espaces, comme par exemple dans le portique ou encore dans le corridor. Une fois dans la classe, ils pourront l'enlever. On a abandonné le système de bulles. On avait dit là, des petites bulles de 6 personnes. Ça c'est abandonné. Là. Maintenant, la bulle, ça devient la classe. Donc, plus de changement de local, mais au moins, les jeunes vont pouvoir être à 20, 24, 25 ensemble. Pour le reste, moi, j'ai trouvé que c'était très flou, que c'est du cas par cas, que ça va être aux écoles ou encore aux commissions scolaires de devoir mettre leur propre balise. Mais je veux pas mettre des mots dans la bouche de notre prochain invité, Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, pardon, qui est au bout du fil pour réagir à cette conférence aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Prévost.
Bonjour, Monsieur Barry.
Alors donc, je le disais, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Moi, je l'ai vu en tant que parent qui a bien hâte d'avoir de l'information là, pour ses enfants. Vous l'avez vu d'un autre œil. C'est clair pour vous ou pas?
Oui, dans l'ensemble, je vous dirais que les précisions qui ont été apportées aujourd'hui là, vont nous donnent un petit peu plus, même beaucoup plus d'informations au niveau des écoles, comme gestionnaire, là, comme direction d'école avec nos équipes. Puis je pense que ça peut sécuriser aussi beaucoup de parents, là, entre autres, bien entendu, là, concernant le port du masque, là, on y voit une certaine cohérence avec ce qui se passait là, présentement dans les endroits publics. Puis ça a été élargi même un petit peu plus loin là, avec nos élèves de 3e cycle, 5e, 6e année, bon, ce qui se colle à la recommandation canadienne, dans le fond, à partir de 10 ans. Pour les bulles, je pense que le fait que les élèves soient dans des groupes classe, ça va être plus facile à gérer là, pour l'équipe école, pour l'enseignant, mm-hmm. de gérer une bulle là, dans une classe que de gérer des regroupements de 6 élèves. Quoique au primaire, souvent, on travaille en sous-groupe, là, mais pour le secondaire, ça aurait été plus complexe. Puis je pense qu'on a eu quand même... Nous, il y a deux autres choses importantes aujourd'hui là, qu'on salue, là, même trois, là, qu'on continue sur la lancée d'une fréquentation obligatoire, parce qu'on sait bon que beaucoup de parents avaient certaines inquiétudes, est-ce que même des demandes de revenir à ce que ça soit optionnel ou au choix du parent. Mm-hmm. Nous, on croit que le de garder le cap sur la fréquentation obligatoire, là, c'est une très, très bonne chose. Je pense que M. Arruda, M. Roberge l'ont bien exprimé en disant, écoutez, oui, la COVID puis la santé là nous préoccupe du personnel de nos élèves, puis ça va nous préoccuper quotidiennement, bien entendu. Mais l'effet aussi de non-fréquentation scolaire, les cours à distance, oui, ils sont là, mais ça remplacera jamais le bon vieux enseignement en classe, en présentiel, là, pour plusieurs aspects. Là, on parle beaucoup de l'aspect académique, là, mais faut pas négliger l'aspect psychosocial.
Bien sûr.
Le fait aussi, bon, le protocole est beaucoup plus précis maintenant sur quels seront les symptômes qu'il y aura retrait de l'élève, dans le fond, l'élève sera isolé, les parents seront contactés rapidement. Maintenant, il restera à voir, là, une fois que l'élève sera dépisté là, pour savoir si oui ou non il est atteint du COVID, que le transfert de l'information de la santé publique se fasse rapidement au niveau des écoles, parce qu'on nous demande, nous, et c'est tout à fait légitime et correct, d'être très transparent avec l'équipe école, d'annoncer et avec les parents, d'annoncer à l'ensemble du personnel et des parents si jamais il y avait des cas de COVID dans nos établissements. Mais il faudra avoir, nous aussi, l'information rapidement de la santé publique si on veut transférer cette information-là.
Parfait. Ça, j'ai compris ça comme vous, moi aussi, mais peut-être que vous en savez plus. Oui. Admettons qu'il y a des cas. Là. Mettons, dans une classe, il y a 2 cas, puis... Là, on retire cette classe-là de la circulation. Là. C'est un peu ce qu'on comprenait. On essaie de retirer seulement les élèves, mais s'il y en a trop, on retire carrément la classe. Et là, ils vont avoir un enseignement en ligne. Pas juste s'ils sont à la maison puis ils font une trousse. Là. Ils vont vraiment avoir un enseignement en ligne. Qui va faire ça? C'est l'enseignant qui leur est attitré? Parce que là, je me mets dans la peau, mettons, au secondaire. Secondaire, le professeur de mathématiques a plusieurs classes de mathématiques. Fait que là, s'il y a une classe qui part, le professeur, lui, il a quand même sa journée à faire à la polyvalente. Là. Il est pas à la maison. Là. Fait que qui va leur enseigner en ligne?
Ben, écoutez, là, il y a ben, on... Ça sera pas magique, hein. Vous avez raison, là, parce que on compte sur les enseignants qui ne seront pas en présence dans les écoles pour des cas particuliers là, de maladies, là, qui n'étaient pas présents non plus à la rentrée au printemps passé, donc qui ont des symptômes où ils peuvent pas être présents pour des conditions médicales. Donc, eux, ils restent à la maison et bon, ces enseignants-là pourraient effectivement s'occuper de la formation à distance. Maintenant, ce qui nous inquiète, puis je sais que le ministre, puis nous aussi, puis tout le réseau veut mettre en place très rapidement la formation à distance. Au niveau informatique, on est beaucoup mieux équipé. Au niveau de la formation aussi. Mais ce qui nous inquiète, puis c'est là que je dis que ça sera pas magique, c'est la pénurie de personnel. Puis vous avez raison dans le sens de dire, à un moment donné, est-ce qu'on fera face à cette pénurie-là, qu'on n'aura pas les ressources nécessaires pour transmettre et s'occuper de la formation à distance? Écoutez, c'est un questionnement qu'on a présentement.
Ben, je suis bien content parce que c'était ma prochaine question de dire, il me semble qu'il manquait de profs, puis on disait d'orthophonistes, puis de spécialistes. Puis là, soudainement, on va peut-être un petit peu réduire les groupes, puis on va pouvoir offrir en ligne. Tu sais, je trouvais qu'on venait de trouver des professeurs un peu partout, comme ça, par magie.
Mais non, on va faire face. Pour nous, on pense que ça va être la problématique, une problématique majeure à l'entrée. Là, les enseignants vont se présenter bientôt au travail d'ici 2 semaines. On va avoir un petit peu plus l'heure juste, là, le portrait plus précis de qui sera présent ou non. Mais à la lueur là, de ce qu'on a vu aussi dans le retour en zone froide aux primaires en formation professionnelle et des adultes au printemps dernier, il y avait quand même 15% de nos enseignants qui étaient absents. Au printemps, on pouvait faire appel à des enseignants du secondaire parce que les écoles secondaires étaient restées fermées et on pouvait faire appel à des élèves de deuxième, troisième, quatrième année du bac parce que les cours étaient terminés au mois d'avril. Là, présentement, ces étudiants-là sont de retour dans leur bac, donc sont pas disponibles et les enseignants du secondaire non plus. Je vous cacherai pas qu'il y a une inquiétude sur le personnel. Bon, les intentions sont là, sont très bonnes et sont très, très, très correctes. Maintenant, faudra voir si on aura tout le monde pour y arriver.
Bon, OK, parfait. Dans la période de questions, il y a été mention du sport-études puis du art-études. Puis là, vous allez nous dire c'est pas important. Ben pas vous, là, mais peut-être les auditeurs sont en train de se dire c'est pas important en pandémie. Le plus important, c'est qu'ils retournent à l'école. Je suis d'accord. Mais pour bien des... Il y en a beaucoup, là, du sport-études au secondaire puis du art-études au secondaire. Est-ce que vous avez compris comme moi que c'est pas clair la direction qu'on veut prendre de ce côté-là?
Ben, je pense qu'il y a effectivement des précisions à avoir concernant le sport-études et les activités parascolaires. Nous, on s'attend, bon, M. Robert, je vais parler de précisions concernant les élèves à risque et en difficulté là, qui vont être déposés très prochainement. On s'attend à ce qu'il y ait aussi certaines précisions concernant le sport-études ou l'art-études. De ce qu'on a compris aujourd'hui, si on est capable de respecter la bulle classe et lors de la pratique là, de leur activité, on est capable de respecter les balises de la santé publique, il n'y aurait pas de problématique à ce niveau-là. Mais je pense qu'il reste effectivement des petites zones à éclaircir. Puis écoutez, j'ai des enfants qui ont été dans des sports-études, là, donc je comprends tout à fait la motivation qui peut les habiter pour certains élèves, mais il faudra comprendre aussi qu'il y aura peut-être des choix à faire. Mm-hmm. Je pense notamment aux élèves de 4e, 5e secondaire. Je pense que dans les organisations scolaires, on va y aller vraiment vers des créneaux, exemple, plus sciences humaines, plus sciences. On était capable, au cours des dernières années, de faire vivre à un élève, exemple, qui s'en allait en sport-études hockey, mais de faire vivre aussi certains cours de sciences. Là, je pense qu'il y aura un créneau plus précis à suivre, puis peut-être avoir accès à moins d'options. Mais écoutez, dans un monde parfait, on aimerait ça bien entendu rester dans ce qu'on était, mais il y aura des compromis à faire, je pense, pour les élèves aussi.
C'est une année de compromis. Reste qu'il faut quand même y penser, parce qu'il y en a qui ça fait 6 mois qui n'ont pas été à l'école, ils ont peut-être un peu perdu le goût. Là, on va leur demander de porter le masque, d'être toujours dans la même classe. Donc, s'ils ont un ami dans l'autre classe, ben ils pourront pas le voir de la journée. Puis là, on leur enlève leur théâtre ou leur cours de de guitare ou encore de sport-études. Fait qu'à un moment donné, il va falloir quand même penser à eux autres et à leur goût si on veut pas en perdre un paquet de secondaire 4 et de secondaire 5.
Non, bon, effectivement, mais on sait que la première raison le premier facteur de décrochage scolaire chez nos jeunes est relié à l'absentéisme. Un élève qui s'absente beaucoup a un risque de décrochage très élevé. Donc, je reviens un peu à la fréquentation obligatoire. Donc, pour nous, ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que si on sait que on devait poursuivre ou plus à distance, on parle de la motivation, on parle beaucoup de retard académique, de facteurs psychosociaux. On pourrait faire face à une vague de crochage plus élevée, ce qui serait vraiment pas très, très, très bon. Surtout qu'au Québec, depuis quelques années, on s'améliore beaucoup au niveau du décrochage. Il ne faudrait pas faire des pas en arrière.
Non, ça, c'est vraiment très important. Et là, le temps nous pousse un peu, mais j'ai une dernière question. Comment vous avez perçu ça? Et comment vous l'avez compris, en fait? Puis comment on va pouvoir faire une demande pour les gens? Prenons l'exemple qui était dans les quotidiens, là. Quelqu'un qui est immunosupprimé ou quelqu'un qui sort d'un traitement pour le cancer puis qui veut pas envoyer son enfant ou que l'enfant lui-même est très, très asthmatique puis qui pourrait décéder de la COVID. Il pourrait avoir, en tout cas, de graves problèmes. Ils vont pouvoir demander, ces gens-là vont pouvoir demander une dérogation pour avoir de l'enseignement en ligne. Mais oui. Mais là, ça s'arrête où? Comment on fait la demande? On parlait d'un papier du médecin. Et encore là, qui va donner ces fameux cours en ligne?
Pour le retrait d'un élève que ça concerne, qui concerne sa propre condition médicale ou celle d'un proche ou d'un parent à la maison là, qui habite sur le même toit, il faut absolument avoir un billet médical pour justifier le retrait de l'élève de l'école. Donc, le billet médical est obligatoire. Une fois, ce qui est un élargissement, je vous dirais, par rapport à ce qu'on avait vu au mois de juin. Au mois de juin, on parlait seulement de la condition médicale de l'élève. C'était pas élargi à des conditions de parents à la maison ou de grands-parents qui habitent sur le même toit. Donc, ils ont élargi ces conditions-là, mais ça doit être prouvé vraiment par un billet du médecin, là, comme quoi ça peut être la fréquentation de l'élève peut être dangereuse là, pour lui ou une autre personne à la maison. Maintenant, pour la formation à distance, comme je vous dis, on souhaite vraiment que les enseignants qui ne seront pas présents à l'école puissent en assumer quand même une bonne partie, mais dépendamment toujours du nombre d'élèves qui feront des demandes, parce que ce qui est certain, c'est qu'on ne demandera pas aux enseignants de faire du présentiel le jour, de faire leurs tâches complètes le jour et de leur demander un surplus de tâches le soir à faire de l'enseignement à distance. On veut vraiment pas aller de ce côté-là, donc on veut regarder vraiment du côté des enseignants qui ne seront pas présents à l'école. Maintenant, il faudra voir l'état de la situation et espérer qu'on ait tout notre monde là, pour offrir le service, un service de qualité.
Mais dans un monde idéal, il n'y aura pas trop de cas, puis tout va suivre son cours, puis on va avoir une belle rentrée scolaire 2020, ce qu'on souhaite le plus possible.
Oui, c'est ce qu'on souhaite vraiment.
Puis je pense qu'on va tous devoir faire des efforts. Sinon, on le disait tantôt, là, on va devoir faire des compromis. Et c'est une fois dans une vie que ça passe, alors faisons-en cette année et souhaitons que tout se passe pour le mieux. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
Mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, M. Barry.
Merci beaucoup. Donc, Nicolas Prévost qui revenait, qui nous donnait ses explications à lui concernant la conférence de presse d'aujourd'hui du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.